Un matin, au début du mois de mars 1839, Monsieur de Quincereau, ingénieur en chef du canal de Berry, me fit mander. Lorsque j'arrivai dans son bureau, il était en compagnie de deux hommes que je n'avais encore jamais rencontrés.
« Entrez, mon cher Nabel, Monsieur Haviland, je vous présente l'enquêteur Auguste Nabel, dont je vous ai parlé plus tôt. Monsieur Nabel, voici Charles Pivut, propriétaire de la manufacture de porcelaine de Fessy, à votre droite. Monsieur Robert Haviland, négociant venu de New York. »
« Enchanté, messieurs, répondis-je. » Monsieur Haviland fit un signe de tête et me serra la main. Monsieur Pilvuit s'adressa à moi.
« Bonjour, monsieur Nabel. J'ai entendu parler de vous ces dernières semaines. Tous les bateliers ne parlent que de votre enquête aux abords du château. Une drôle d'affaire. »
« Ce n'est pas étonnant. Monsieur Nabel a fait des merveilles ces dernières semaines à Meun-sur-Yèvre. Plusieurs rumeurs tenaces ont pu être élucidées grâce à son travail. La situation autour du canal s'est largement apaisée. Bien, mon cher Nabel, à quelle date avez-vous prévu de repartir ?»
« Eh bien, sauf incident de dernière minute, d'ici une semaine probablement, » répondis-je.
« Voyez, messieurs, le calendrier est idéal. Mon cher détective, nous avons une dernière mission à vous confier. »
Charles Pilvuit prit la parole.
« Monsieur Haviland, ici présent, nous vient de la ville de New York, où mon père a obtenu une médaille d'or pour nos porcelaines en 1823. » Monsieur Haviland vient visiter les différentes manufactures de porcelaine française afin d'en importer aux États-Unis d'Amérique. Il souhaite envoyer différentes pièces à ses frères à New York pour leur présenter notre travail. Il est primordial que ces pièces arrivent à bon port, ou tout du moins entre les mains d'un homme de confiance qui leur fera traverser l'Atlantique.
Nous voulons faire découvrir la porcelaine française aux Américains, qui est bien meilleure qualité que la British. Je fais visite des porcelaines et mon petit frère David arrive en France l'année prochaine chez la famille Pilvuit.
Or, si la situation s'est améliorée le long du canal de Berry, nous aimerions nous assurer que le transport des pièces se déroule sans encombre. La fièvre de l'or blanc est effervescente et nous avons déjà eu à regretter des pertes au cours du transport ces derniers mois. Nous savons que ces accidents ont lieu lors du transport le long du canal. Le batelier nous affirme que c'est dû à de la casse lors des manœuvres. Mais nous suspectons des larcins, car nous prenons un soin tout particulier à protéger les pièces de porcelaine, qui sont ensuite acheminées par chariot. »
Comme s'il lisait dans mes pensées, l'ingénieur ajouta.
« Nous savons que vous n'êtes pas convoyeur de marchandises, mais escorter ces caisses de porcelaine vous permettrait d'enquêter sur les agissements de ces brigands. Si vous remarquez quelque chose de suspect, vous pourrez m'en faire part, et nous étudierons les actions à entreprendre. »
Ainsi, quelques jours plus tard, j'embarquai à bord d'une flûte perrichonne, l'une de ces péniches étroites conçues pour naviguer sur le canal de Berry. Chargée d'environ 50 tonnes de caisses d'objets divers en fonte, l'amarante avait appareillé à Meun-sur-Yèvre et prenait la même direction qu'une autre péniche, la Saragotte, qui contenait quant à elle 8 caisses de porcelaine de la manufacture Pilvuit à destination de New York. L'amarante, dans laquelle je me trouvais pour surveiller de loin le destin de la précieuse cargaison, resterait 200 à 250 mètres derrière. Le convoi devait durer 5 jours environ jusqu'à Noyers-sur-Cher, où la porcelaine serait confiée pour le transport par chariot à un homme de confiance, un proche de la famille. Passant par Blois, Vendôme, Nogent-le-Rotrou, il irait au port du Havre pour embarquer pour l'Angleterre et finalement les États-Unis d'Amérique. La bourrique qui nous halait durant la journée était tissée à bord de la péniche par une petite grue pour passer la nuit à bord du bateau. Grâce à la force de traction de l'animal, la péniche progresserait d'environ 12 à 15 km par jour selon le sens du vent. L'amarante partit à 5 heures du matin de Meun-sur-Yèvre en direction de Vierzon pour rejoindre la Saragotte qui chargeait à Foissy les porcelaines de la manufacture. La nuit encore bien présente, et le brouillard matinal compliquait quelque peu la visibilité le long du canal. Et je ne pus m'empêcher, en voyant les ombres floues à travers la brume, de comprendre l'attrait irrésistible des bateliers pour toutes ces légendes surnaturelles. Assis sur la proue de l'embarcation, je tenais haut la petite lampe à pétrole pour espérer apercevoir la sargote. Le temps paraissait figé, et le soleil ne serait d'aucun secours avant 7h30 du matin au minimum. Sans rien montrer, je fus tout de même soulagé de découvrir la silhouette du bateau que je devais filer, qui attendait patiemment de pouvoir passer l'écluse de Foissy. Nous la suivîmes tout au long de cette journée maussade. La sargote ne s'arrêta que quelques courts instants et passa les écluses de Dalvet et de Givry sans nous prêter la moindre attention. La halte, pour elle comme pour nous, devait se faire à Vierzon, afin d'y passer la nuit. La marande s'arrêta avant l'écluse de Varennes. La sargote, quant à elle, passa l'écluse de Vierzon et s'amarra sur le quai du bassin. Je fis plusieurs allers-retours discrets durant la nuit pour surveiller l'activité autour de la sargote. Je n'y surpris aucune activité suspecte. Et une fois certain que ces deux occupants dormaient, je partis finir la nuit sur la marante, avec mes deux hôtes et la bourrique. Le lendemain, alors que je revenais après avoir surveillé le départ sans encombre de la sargote, le batelier de la marante me fit part d'une bien fâcheuse nouvelle. Il attendait le chargement de 5 tonnes de fonte et ne pourrait repartir qu'ensuite. Ce n'était pas prévu au programme, mais rien ne le fit changer d'avis malgré tous mes efforts de négociation. Je pris donc mon mal en patience en me disant qu'il serait peut-être possible de rattraper la sargote durant la journée. Je songeais qu'en d'autres circonstances, il m'aurait été possible de suivre l'embarcation à pied car l'allure était largement tenable pour un bon marcheur. Mais une vilaine entorse lors de mon enquête au château m'handicapait encore fortement. Je pouvais marcher quelques kilomètres par jour en m'appuyant sur ma canne, mais couvrir les 15 kilomètres quotidiens à pied m'était impossible. Quand l'amarante repartit enfin, nous avions déjà perdu plus de 3 heures. Le temps de passer les écluses, je me rendis compte que notre allure avait, de surcroît, légèrement baissé.
Oh, par Dieu, c'est sûr! C'est que la bourrique s'entagne avec le poids du bateau!
M'expliqua le batelier. La journée passa sans signe de la Sargotte. Nous fîmes halte à Châtres-sur-Cher. Je tentai une reconnaissance de 2 kilomètres pour retrouver trace de mon lièvre, mais sans succès.
Marronne donc pas! Il n'y a pas de corbineur sur le canal!
Me dit le batelier de l'amarante à mon retour. Le lendemain, il consentit tout de même à repartir plus tôt, afin de rattraper notre retard. Je tentai d'aider la brave bourrique en pagayant, sous l'œil hilar du capitaine. Mais aucune trace de la Sargotte, qui allait probablement plus vite que nous, étant beaucoup moins chargée. Je commençais à craindre de faillir à ma mission. Cependant, après 15 kilomètres et 2 écluses, alors que la nuit tombait, j'aperçus la silhouette tant espérée, amarrée sur le bord du canal, à l'écluse de la pêcherie. Je poussai un cri de victoire, puis un juron, en voyant une caisse de la manufacture posée à proximité de la maison de l'éclusier. « Les brigands, ils ont profité de mon absence, » murmurai-je, les dents serrées. En accostant, je me rendis discrètement devant la porte entrouverte de la maison éclusière.
C'est pas tous les jours qu'on voit de la porcelaine comme ça.
Pour sûr, celle-ci part pour le Nouveau Monde à des milliers de kilomètres.
Faut pas l'abîmer, sinon on pourra pas la refourguer.
Je surgis au même moment dans la pièce principale. Une bonne odeur de pot-au-feu y régnait. 2 hommes, une femme et une jeune femme étaient attablés. Ils poussèrent tous un cri effaré en me voyant.
« Qui êtes-vous ? »
cria l'homme en se levant précipitamment de sa chaise. « Auguste Nabel, enquêteur, je viens régler les affaires de la famille Pilvuitz, les fabricants de la porcelaine que vous avez volée, » répondis-je, en pointant du doigt les assiettes et tasses sur la table.
« Volée ? Mais on n'a pas volé ?»
répondit l'autre homme d'un air menaçant.
Je transporte justement ces caisses de porcelaine dans ma péniche, jusqu'à noyer.
Mais on profite simplement de leur passage pour manger dans de la belle vaisselle. On ne fait pas de mal. On nettoie tout ensuite et on la remet dans les caisses.
Et comment expliquez-vous que des services disparaissent ? Répliquai-je.
Ça, c'est que on a un jeune chien, un peu joueur.
Et qui a renversé la table la dernière fois, et qui a cassé 3 assiettes.
Et la dernière fois, nous avons échangé 2 belles tasses contre 2 caisses de pommes à l'église des Trompes-Souris.
Ajouta la jeune fille.
Tu te rappelles, papa ?
Non. Tais-toi, Marguerite.
N'empêche, elles étaient bonnes.
Inquiets, ils me regardaient tous fixement. Soulagé, j'attendis quelques instants avant de leur répondre. Bien, je comprends. Je vous laisse une chance et n'en toucherai pas un mot à la police. Mais il faut me jurer de rendre toutes ces tasses et assiettes dans un état impeccable, comme neuve. Sans quoi je serai contraint de sévir, dis-je d'un ton sévère. Et vous arrêterez à l'avenir de troquer la marchandise. Le batelier en fit la promesse en portant la main sur son cœur. Je soupirai. Pris une chaise, m'assis et leur demandai. « Bien. Et sinon, vous resterait-il une assiette de ce bon pot-au-feu »«